dans le premier livre des rois et au chapitre 17. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, c'est-à-dire à Élie, en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive, ou dans un vase, ou une cruche. » Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain. » Dans d'autres textes, il dit un morceau de gâteau, dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la face du sol. » Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Je voudrais vous inviter à faire une deuxième lecture, s'il vous plaît, toujours dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Verset 1er, 1 Roi, chapitre 19, verset 1er. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'en est trop, ou c'en est assez. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Nous voyons dans ces deux histoires que nous venons de lire que ce soit aussi bien pour la veuve de Sarepta que pour Élie dans cette dernière histoire que nous venons de lire, tous les deux étaient censés se terminer par la mort. La veuve de Sarepta, il nous est parlé de la veuve de Sarepta dans Luc chapitre 4. C'est le Seigneur qui parle de cette veuve de Sarepta. Qu'au temps de la sécheresse, eh bien, Dieu a envoyé son serviteur vers une veuve qui est étrangère. Alors qu'en Israël, il y avait beaucoup de veuves. On pourrait se poser cette question. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son serviteur vers une veuve qui est étrangère et qui plus est une Sidonienne? C'est-à-dire que cette veuve, elle est de la nation de Jézabel, la femme d'Akab, celle qui a amené le culte de Baal et d'Astarté en Israël et qui de ce fait plonge Israël dans une catastrophe spirituelle. Et c'est vers cette veuve que Dieu va conduire son serviteur. Si bien que lorsque nous lisons cette histoire, nous comprenons et nous pouvons saisir quelques vérités et je pense que si vous allez en faire la lecture, vous en saisirez encore davantage parce que l'Esprit, il est présent aussi bien ici dans ce lieu que chez nous à la maison lorsqu'on se tient devant Dieu et qu'on médite sa parole. L'Esprit nous instruit, nous enseigne, nous révèle eh bien, les mystères, les richesses qui sont là cachées dans la parole et que Dieu révèle à celui ou à celle qui le cherche. Alléluia. Et je crois que Dieu ce soir, comme à cette veuve, Dieu il est celui qui veut envoyer le secours dont cette veuve a besoin et peut-être se trouverait-il au milieu de nous ce soir quelqu'un qui est à l'extrême comme cette veuve et qui ne voit plus d'issue si ce n'est que être attendre peut-être ou solliciter la mort. Mais nous voyons que de telles situations n'atteignent pas uniquement les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des situations qui peuvent atteindre aussi l'enfant de Dieu. Et ici, Élie, qui est le serviteur de Dieu, un homme qui fait référence dans la parole de Dieu et dont on a beaucoup relevé, parlé, parce que Élie est un homme du réveil. C'est lui qui était censé amener le réveil en Israël. Mais cet homme, malgré la puissance que Dieu manifeste au travers de sa vie, les prodiges, les miracles, etc., eh bien, lui aussi va être atteint au point qu'il va désirer, chercher à mourir. Ceci pour nous amener à comprendre et à saisir que, eh bien, chrétien ou non chrétien, enfant de Dieu ou pas, serviteur, servante du Seigneur, nous pouvons être atteints de cette même situation. Mais béni soit Dieu, parce qu'il est le Dieu du secours. Il est le Dieu de l'extrême. Il est le Dieu qui peut nous relever, il est le Dieu qui peut nous restaurer, il est le Dieu qui peut nous redonner des perspectives. Alléluia. En ce qui concerne la femme, cette veuve de Sarepta, eh bien, cette, la raison de son attente de la mort, c'est la situation catastrophique matérielle dans laquelle vit son pays en raison de la sécheresse. Elle ne demande pas la mort. Par contre, elle ne voit pas d'autres issues que la mort. Donc, l'élément déclencheur ici de cette situation pour cette femme est le manque de ressources en raison de la sécheresse. Ce qui veut dire que nous pouvons nous trouver dans une situation extrême où nous manquons de ressources, du nécessaire, de l'essentiel, et nous pouvons être tentés à penser que la seule issue, c'est la mort. Élie, le contexte nous amène à comprendre que c'est la situation spirituelle du pays qui amène cet homme dans cette déprime, dans ce désir de mourir. Élie, lui, n'attend pas la mort, mais il demande. L'élément déclencheur de cette situation d'Élie, ce sont les paroles prononcées par Jézabel. Ce sont les menaces de Jézabel. Il faut savoir que Jézabel, lorsqu'on lit, ce n'est pas dit exactement, mais lorsqu'on lit, on comprend que Jézabel, c'est une prêtresse païenne. Et en de plus, elle est femme d'Akab, située ici, au plus haut niveau de la hiérarchie du pays. C'est pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, que ce que nous pouvons voir autour de nous, le contexte dans lequel nous vivons, et ce que nous pouvons entendre influe fortement sur notre vie et peuvent nous orienter d'un côté comme de l'autre. C'est ce que nous voyons ici dans ces deux histoires. Dans l'histoire de cette femme, en plus, il est dit que c'est une veuve. On ne sait pas depuis combien de temps cette femme est veuve. Mais il y a là, donc, dans la vie de cette femme, eh bien, un drame familial conjugué avec une situation catastrophique. Comme quoi, des fois, on dit qu'un malheur n'arrive pas sans l'autre. Hein? Jamais deux sans trois. Alors, elle perd son mari, elle reste avec son fils. En plus, la situation catastrophique du pays, certainement cette femme, comme toutes les mères d'ailleurs, vont faire tous les efforts possibles pour sauver son enfant, elle se trouve à bout de force. Les efforts qu'elle a certainement faits n'ont donné aucun résultat et ils conduisent une femme à un manque de perspective concernant l'avenir. Elle ne peut plus se projeter. Bien souvent, les parents se projettent au travers de leurs enfants. Vous voyez? Ce qu'on n'a pas réussi, on aimerait que nos enfants réussissent. Mais là, ici, cette femme, elle n'a plus de perspective. Elle ne formule plus de projet. Nous pouvons également nous trouver donc dans cette situation où nous n'arrivons plus à nous projeter tellement nous sommes pris dans nos entrailles, dans nos pensées, dans notre cœur, par la situation que nous vivons, eh bien, elle domine sur nous et cela amène une femme seule à se résigner, à attendre la mort. Et parfois, on est résigné. On ne sait plus. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire. En ce qui concerne Élie, je l'ai dit tout à l'heure, une situation catastrophique d'un pays au niveau spirituel, une augmentation de l'iniquité, le culte de Baal et d'Astarté qui se propage. Il y a 850 prophètes de Baal et d'Astarté dans le pays d'Israël et un seul prophète. Le manque de résultats visibles d'un ministère puissant, passionné, engagé, consacré. Je dis bien un manque de résultats visibles. Les menaces de mort lancées par une servante de Satan ont eu raison de la ténacité d'Élie. Si bien que les souvenirs des œuvres de Dieu, des expériences vécues, de ses témoignages, des paroles de l'Éternel, des miracles vécus et dont il a été le moyen d'action, tout cela est passé aux oubliettes. Je n'avais jamais remarqué que quand on est plongé dans la difficulté, on dirait qu'on a tout oublié. Le souvenir des choses passées, des temps merveilleux qu'on a vécu avec le Seigneur, tout cela sont oubliés. Cela a conduit cet homme, serviteur de Dieu, à une perte de vision. Il perd complètement la vision et ça peut arriver à chaque chrétien que nous sommes. Et à sombrer dans la déprime, à se renfermer sur soi-même. Il pense qu'il est seul. Il est resté seul, prophète en Israël. Et que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné, toute sa passion pour l'œuvre de Dieu n'a rien donné. Si bien que cela a conduit cet homme à se séparer de la personne qui pouvait encore l'aider, son serviteur. Voyez-vous, frères et sœurs, quand nous sommes dans ces situations-là, bien souvent, on se met à l'écart. On va dire, on se met au vert, on prend un temps de réflexion, on prend un peu de recul. Et ça finit par la rétrogradation. À rechercher la mort. Il s'installe donc dans le sommeil de la mort. Mais nous l'avons vu tout à l'heure, frères et sœurs, au travers des cantiques que le frère nous a fait chanter. Qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espérance. Y a-t-il quelqu'un ici qui se trouve dans cette situation? Je voudrais dire de la part du Seigneur, il y a de l'espoir pour toi. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Parce que Dieu a une bonne nouvelle pour la femme sidonienne. Alors qu'elle croyait qu'il n'y a plus d'espoir, le secours était déjà en route. Je ne sais pas combien de jours, de semaines, Élie a-t-il mis pour partir du torrent de Kérit jusqu'à Sarepta. Mais cette femme ne le sait pas. Nous le savons. Mais elle ne sait pas que le secours de Dieu est déjà en route, en chemin. Frères et sœurs, le secours de Dieu est déjà en route. J'ai une bonne nouvelle, parce que Dieu a une mission pour cette femme. Voyez? Non seulement il y a le secours de Dieu qui est en route, mais Dieu a une mission pour elle. Une femme païenne. Se trouverait-il ici quelqu'un qui ne s'est pas encore donné à Dieu? Je voudrais dire de la part de Dieu pour toi, Dieu a des projets pour ta vie. Alors même que tu n'as pas encore ouvert ton cœur, ta maison, Dieu a déjà formulé des projets pour ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour un frère ou une sœur qui voudrait arrêter son service parce qu'il est découragé. Parce qu'il se dit peut-être que les efforts qu'il fait, ça ne donne pas. Ça n'aboutit nulle part, ça ne mène à rien. Ça ne lui correspond pas, ça ne le satisfait pas. Il veut abandonner. Je voudrais dire qu'il y a une bonne nouvelle. Dieu a une vision à te communiquer. Et dans cette vision, tu es acteur dans la réalisation de cette vision de Dieu. Pour cela, frères et sœurs, le message de Dieu, il est simple. Il va aller et l'ange, Dieu va envoyer son serviteur, il va envoyer son ange vers Élie. Et l'ange va lui dire, lève-toi. Arrête de dormir. C'est pas le moment. C'est fini le temps de dormir. Il est temps de se réveiller. Lève-toi. Dieu a des projets pour toi. Alors que tu es en train de te morfondre, Dieu te dit qu'il a formulé des projets pour ta vie. Alors que tu es découragé, Dieu te dit qu'il a formulé des projets pour ta vie. Mais Dieu te demande de changer de position. Voyez? Arrête de subir. Voyez? Quand on subit la situation dans laquelle on vit, eh bien, on est déprimé et on est découragé. Qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonnée? Voyez? Dans cette histoire, concernant la veuve de Sarepta, Dieu va dire à Élie, « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Voyez? Quand Dieu ordonne, les choses se mettent en place et s'exécutent. Alléluia! Ne vous inquiétez pas de ce que Dieu a à faire. C'est déjà en route. Mais ce que Dieu nous demande, à vous et à moi, c'est de se lever. Qui ce soir voudrait saisir cette parole de Dieu pour dire, oui, je veux me lever. Dieu dira au temps d'Ésaïe, qui enverrai-je? Et Ésaïe dira, me voici, envoie-moi. Un changement de position, quand on est en sommeil, voyez, c'est généralement la nuit, bon, bien qu'on fasse parfois la sieste, hein, de longues siestes pour certains. Oui. Mais le sommeil, c'est toujours, comment, la fin d'une chose et le commencement d'une autre. Voyez, voilà. On a dormi parce que c'est la nuit, et une fois que la nuit est finie, on se lève, c'est un nouveau jour. Voyez? Et quand on s'est reposé l'après-midi parce qu'on a travaillé et puis qu'on a fait un bon repas bien chargé et que, voilà, on avait besoin de s'assoupir, une fois qu'on est réveillé, c'est reparti. Voyez? Voilà. Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Oui, frères et sœurs. Et Dieu va insister. Parce que Élie, il va manger, il va boire et il continue à dormir. Et Dieu insiste. C'est très fort possible. Et je le crois. Quand j'ai préparé ce message, j'avais vraiment l'assurance que Dieu a déjà interpellé quelqu'un, mais il fallait qu'il le réentende ce soir. Dieu insiste. Lève-toi. Mange, parce que le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Oui. Quand Dieu insiste, c'est que c'est important. En ce qui concerne Samuel, je crois que le Seigneur, il a appelé 4 fois jusqu'à ce que Samuel réponde. Voyez? En ce qui concerne Pierre, je crois qu'il a eu la vision 3 fois de cette nappe qui est descendue. Quand Dieu insiste, c'est que c'est important. Et si c'est important pour Dieu, frères et sœurs et amis, ça doit être important pour nous. Alléluia. Vous n'imaginez pas, nous n'imaginons pas les conséquences de prendre au sérieux l'appel de Dieu. Alors que Élie, il pense que ça y est, c'est fini pour lui, le ministère, c'est terminé. Dieu va lui dire, lève-toi, mange, parce que le chemin est long. Alléluia. Oui. Oui, Dieu se préoccupe de ses serviteurs et de ses servantes. Alléluia. Oui, il nous arrive de connaître des temps de déprime, de découragement, de fatigue, pour diverses raisons. Mais Dieu est toujours là pour relever, pour encourager, pour fortifier. Et même lorsque, comme Élie, on a reçu des paroles de mort, voyez, parce que parfois on reçoit des paroles de mort, mais on a reçu une parole, alors on est complètement terrassé. Alors, Dieu sait trouver les paroles qu'il faut. Alors qu'Élie est complètement découragé. Vous voyez, la méthode de Dieu, ce n'est pas la même que la nôtre. Hein? Alors qu'Élie est complètement découragé et qu'il dort sous un genêt et qu'il attend la mort, le Seigneur lui dit, lève-toi, mange. Hein? Il n'a pas amené un psy. Hein? Non. Il a dit, lève-toi et mange. Vous verrez, frères et sœurs, que ce n'est pas anodin, ça. Vous voyez? C'est vrai qu'on perd des forces spirituelles et qu'il y a vraiment besoin qu'on reprenne des forces. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Voilà. Mais je voudrais dire ceci que, vous voyez, le Seigneur, il a préparé un repas spécial pour Élie. Alléluia. Vous voyez? Bon, ce n'est pas le petit déjeuner au lit, hein? Mais, quand même, il dort. Et au moment où il se réveille, là, à son chevet, il n'a même pas entendu quand ça a été préparé. Les gâteaux, hein, je ne sais pas, les sœurs qui préparent les galettes, doivent faire du bruit, ça, quand même. Mais Élie n'a pas entendu du bruit, alors que le Seigneur était en train de préparer un repas pour lui. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu prépare les repas pour nous, David dira, tu dresses une table devant mes ennemis. Alléluia. C'est-à-dire que dans l'épreuve, dans la difficulté, il y a un bon repas que le Seigneur, il a prévu, il a préparé. Alléluia. C'est ça qui est beau et merveilleux avec Dieu. Quand nous, on ne voit pas d'issue de sortie possible, le Seigneur, il a déjà prévu, il a déjà préparé, il a déjà réservé. Voyez? Tout est déjà prêt. Le contenu du repas, nous savons, je l'ai dit tout à l'heure, mange, parce qu'il avait besoin de reprendre des forces. Le contenu du repas, un gâteau et de l'eau. Hein? C'est un repas de prisonnier, ça. Hein? Du pain et de l'eau. Qu'est-ce que vous avez au petit déjeuner le matin? Hein? C'est mieux que ce qu'Élie a. Hein? Du point de vue peut-être culinaire et autres, mais en ce qui concerne la consistance qu'il y a à l'intérieur de ce repas, ça va lui donner des forces pour 80 jours. Vous voyez? Il a fait un repas et il a marché 80 jours. 40 jours pour aller et 40 jours pour revenir. Hein? je défie quiconque, les meilleurs cuistots de France et de Navarre, de faire un seul repas qui nous donne des forces pour 80 jours. Hein? C'est pour dire que ce que Dieu fait est toujours meilleur. Alléluia. Dans l'épreuve que tu vis, il y a une bénédiction que Dieu a prévue et préparée pour toi. Il ne tient qu'à toi de te lever et de manger et boire. Voyez? Dans cette situation, la première fois que le Seigneur il a appelé Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a mangé et bu et il s'est rendormi. Comme si ce repas n'a rien fait du tout. Voyez? Et puis, quand le Seigneur est revenu une deuxième fois, l'ange est revenu une deuxième fois, la Bible nous dit qu'il s'est levé, il a mangé, il a bu, et avec la force que lui a donné ce repas. C'est le même repas que celui qui est le précédent. Voilà. Et avec la force que cela lui a donné, il a marché 80 jours. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la première fois, Élie, il a mangé, mais il était toujours couché. Voyez? La deuxième fois, il s'est levé. Frères et sœurs, se lever, c'est une obéissance à ce que Dieu lui demande. Lève-toi. Se lever, c'est s'engager vis-à-vis de Dieu. Et lorsqu'on obéit et qu'on s'engage vis-à-vis de la parole de Dieu, les conséquences spirituelles qui sont contenues dans cette parole, eh bien, sont bénéfiques pour notre vie. Il y en a, je pense, quand ils viennent à l'église, ils entendent, ils disent « je me suis fait du bien », etc. Mais ils repartent et au bout de la rue, ils sont toujours déprimés. Voyez? Comme s'ils n'ont rien reçu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque quelque part. Dieu a fait sa part, mais il manque notre part. Je vais essayer d'aller vite, frères et sœurs, pour dire que avec ce repas, il y a un message. Il y a un message audible, nous l'avons lu tout à l'heure. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Dieu connaît les jours qui sont devant, comme il sait ce qui s'est passé, les jours passés. Mais ce que je voudrais également dire par rapport à Élie et à la veuve de Sarepta, parce que dans le repas que le Seigneur a servi à Élie, c'est exactement le même repas qu'il a mangé avec la veuve. Voyez? Un morceau de gâteau et de l'eau. Vous comprenez? Et lorsque Élie, il a apporté le message à cette femme, eh bien, cette femme a obéi à cette parole. Et le fait d'avoir obéi, elle a ouvert une porte. La porte du miracle de Dieu s'est ouverte pour cette femme. Frères et sœurs, je ne pense pas avoir tout le temps, peut-être une fois prochaine pour parler de cela, mais je veux dire que l'obéissance dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel, de primordial. Parce que, pour comprendre cela, c'est par une désobéissance que l'homme a été séparé de Dieu. Vous voyez? La chute de l'homme est venue à cause d'une désobéissance. Alors, quand on se met en obéissance, on renoue à nouveau la relation et la communion avec Dieu. C'est par l'obéissance du Fils de Dieu que le salut s'est ouvert aux hommes. De la même manière, lorsque nous accueillons la parole et que dans notre cœur nous voulons obéir, nous choisissons d'obéir, eh bien, nous ouvrons notre vie à la grâce de Dieu. Le miracle se produit dans notre vie. Je voudrais nous encourager tous, frères et sœurs, à différentes hiérarchies, si on peut dire comme ça, les choses, mais pas nécessairement une question de hiérarchie, mais de dire que l'obéissance, c'est primordial. C'est essentiel. Lorsque Élie, il a obéi, le repas qu'il a pris, il a eu effet. Mais lorsqu'il a pris couché, il n'a pas eu d'effet. Lorsque Élie est allé voir cette veuve, il lui a dit, apporte-moi un verre d'eau. Et cette femme s'est exécutée. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci. Lorsque vous donnez un verre d'eau à un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Voyez? Cette femme ne sait pas que cette action qu'elle était en train de faire, c'est à Dieu qu'elle est en train de faire. Et si bien quand Élie, voyez, lorsqu'on obéit, frères et sœurs, on fait le premier pas vers la foi. Bien souvent, on dit, Seigneur, augmente pas la foi, mais on s'installe dans la désobéissance. Alors, notre prière reste sans réponse. Parce que la foi et l'obéissance, ce sont deux choses qui vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de foi sans obéissance. L'obéissance conduit à la foi et la foi nous conduit à l'obéissance. Et ceci, je vais y aller rapidement pour dire que dans ce repas, il y a un message. Pour rappeler à Élie que Élie, je n'ai pas retiré mon appel. Je n'ai pas retiré ton ministère. C'est pour ça que je vous ai parlé que le repas que le Seigneur il a servi à Élie, c'est le même repas qu'Élie a pris avec la veuve. Et le miracle s'est produit dans cette maison. Mais si le miracle s'est produit dans cette maison, c'est parce qu'il y a eu un envoyé. Et l'envoyé, c'était Élie. C'est pour lui rappeler ce repas. Que je n'ai pas retiré ton ministère. J'ai encore des projets pour toi. Frères et sœurs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Jésus dira ceci, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nourrissons-nous, frères et sœurs. Recherchons la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne pour nous. Et même dans cette volonté de Dieu, même lorsque cette volonté va nous conduire dans la difficulté, mais c'est dans notre intérêt. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, c'est dans notre intérêt. Il y a la grâce de Dieu qui coule, il y a la bénédiction, frères et sœurs, mais il y a plus que cela. Le chemin est long. Dieu ne veut pas te nourrir pour un jour seulement. Mais il veut que tu te nourrisses. Parce que le chemin est long. Et dans ce chemin, si le Seigneur le permet, nous en parlerons une fois prochaine, frères et sœurs. Mais c'est pour dire ceci que Dieu, en agissant ainsi avec Élie, il va remettre les choses dans l'ordre. Il va repositionner les choses. Et Élie va reprendre des forces et il va aller à la montagne de Dieu, à Horeb. L'obéissance, frères et sœurs, nous ouvre la porte de la restauration, de cette porte de la communion et de la rencontre avec Dieu. Vous n'est-il pas arrivé des fois où on dirait qu'on n'a plus envie de prier? On n'a plus envie même de lire la parole. Quand on la lit, on dirait que il n'y a rien qui se passe. Voyez? Voilà. Eh bien, frères et sœurs, mettons-nous devant Dieu. Parce que quand on invoque Dieu, Dieu ne manque pas de répondre. Il dira ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Il dira à Josué, alors qu'il allait partir au combat, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la, ça veut dire rumine-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jésus dira face au diable, lorsqu'il va lui dire de, si tu es fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir des pains, il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais dire en conclusion, lève-toi mon frère, mange, parce que le chemin est long. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, combien nous te bénissons parce que nous sommes encore dans ce temps de grâce que tu as ouvert à la croix il y a plus, maintenant plus de 2000 ans et qui nous donne cette possibilité d'être réconciliés avec toi, et Seigneur, et d'entrer à nouveau en communion avec toi et de recevoir de toi cette vie nouvelle que toi seul tu peux faire, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, cette vie nouvelle que toi seul tu peux changer, toi seul tu peux transformer. Seigneur, à la lecture de ta parole, nous venons nous incliner pour dire Seigneur, nous voulons chaque jour persévérer dans la lecture et la méditation de ta parole. Chaque jour, Seigneur, s'il te plaît, ne cesse pas de nous donner une parole parce que nous en avons besoin. C'est toi seul qui as les paroles de la vie. C'est toi seul qui as les paroles qui apportent la guérison, qui apportent la délivrance, la consolation, le relèvement, la restauration. Seigneur, si quelqu'un ce soir, Seigneur, est tellement souffrant, Seigneur, je te prie de le bénir dans le nom de Jésus. Si quelqu'un s'est découragé, Seigneur, je te prie de le relever, de le fortifier ce soir. Que par ta parole, Seigneur, ce soir, tu relèves, tu bénis, tu guéris, tu changes la destinée, tu relèves mon frère, ma sœur, tu relèves cet ami, tu lui donnes de l'espérance, Seigneur. Tu lui donnes une perspective. Ouvre les yeux, Seigneur, de notre cœur, pour que nous comprenions, pour que nous voyions, Seigneur, nous ayons cette vision, Seigneur, devant nos yeux, pour vivre selon tes principes et accomplir ta volonté. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.